Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent consacré à Irène Joliot-Curie, nous avons découvert la fille aînée de Marie Curie. Après une enfance privilégiée au milieu des Nobel, Irène est devenue formatrice en radiologie à 18 ans pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant que la paix est revenue, elle travaille comme assistante de sa mère à l'Institut Curie quand un nouveau préparateur, Frédéric Joliot, fait irruption dans sa vie. Épisode 2. Au service de la France. Nous sommes en 1924, à Paris. Irène a désormais 27 ans. Elle est à sa table de travail au laboratoire. Elle est en train de préparer une petite quantité de radium pour les travaux de recherche de sa mère. Quand elle éteint la lumière, le radium émet une lueur verte presque surnaturelle. Le nouvel assistant de Marie entre dans la pièce. Il s'appelle Frédéric Joliot et il vient de sortir major de sa promotion de l'École municipale de physique et de chimie industrielle de Paris. C'est un grand brun au regard doux et intelligent et Irène n'est pas insensible à son charme. Il se sourit, puis il se met à parler de radium. Irène a une conception très moderne de l'amour. Elle a été élevée par un grand-père laïcard et une mère qui lui a mis dans la tête qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants, mais parce qu'on a trouvé un partenaire de vie. Dans les années 1920, ce mode de pensée est très avant-gardiste. Au bout d'un an, Frédéric se décide à demander Irène en mariage. Elle accepte. Elle a la conviction qu'ils formeront un couple amoureux qui partagera la même passion pour la recherche. Irène redoute un peu le moment d'en informer sa mère. Et effectivement, en apprenant que sa fille va se marier, Marie s'inquiète. Elle craint de la perdre. Mais avec le temps, elle se rend compte qu'elle a plutôt gagné un fils. En 1926, Irène devient Madame Joliot-Curie. Deux enfants naîtront de leur amour, Hélène et Pierre. À partir de la fin des années 1920, les jeunes chercheurs de l'Institut Curie enchaînent les découvertes en physique et en chimie. Ils font avancer la recherche, mais trouvent aussi des applications pratiques à leurs découvertes. La curie-thérapie, une technique d'irradiation des tumeurs, va notamment servir à soigner certains cancers. En 1932, Irène devient chef de travaux dans le laboratoire fondé par sa mère. Elle dirige elle-même des recherches et des confrères. Irène et Frédéric font désormais équipe. Comme tous les physiciens de leur époque, ils cherchent à comprendre ce qui structure la matière, de quoi est fait l'atome. Le couple se met à bombarder du béryllium avec des rayons alpha. Le béryllium produit alors un nouveau rayonnement. Irène pense qu'elle a obtenu une sorte de rayon gamma. Mais elle se trompe dans son interprétation. Le physicien anglais Chadwick reprend l'expérience d'Irène. Et deux mois plus tard, il aboutit à la conclusion que le béryllium bombardé de rayons alpha émet des neutrons, une particule subatomique sortie du noyau d'un atome. La communauté scientifique est en ébullition. À cette époque, les scientifiques sont tous au courant des travaux des uns et des autres et se livrent à une course au Nobel pas toujours loyale. On dit souvent que les femmes scientifiques en ont pâti parce qu'on a minoré leur rôle dans la recherche. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, du nom de la militante du 19e siècle, Mathilda Gage, qui a théorisé cette idée. Ni Marie, ni Irène n'a eu à en souffrir. Elles étaient très respectées. Coiffées au poteau par Chadwick, Irène et Frédéric se mettent à ioniser de l'aluminium avec du polonium. Ils emballent du polonium radioactif dans de l'aluminium. Et quand ils enlèvent le polonium, l'aluminium émet un rayonnement. Ils ont fabriqué un élément radioactif artificiel et pensent avoir découvert les électrons positifs. Leurs travaux intéressent tout particulièrement le Congrès Solvay. Cette assemblée réunit chaque année les plus grands physiciens, dont Albert Einstein et Marie Curie. En 1933, Marie n'y participe plus. Irène lui a succédé. Cette année-là, les physiciens réfléchissent ensemble à leurs travaux en cours. Une nouvelle fois, Irène et Frédéric ont mal interprété les résultats de leur expérience. En revanche, ils ont créé la radioactivité artificielle, le fait de transformer un élément stable en élément radioactif. Irène n'a pas été élevée pour baisser les bras à la première critique, d'autant plus que le congrès Solvay de 1933 est présidé par son ancien directeur de thèse, Paul Langevin. Elle reprend ses expériences avec Frédéric et le couple publie, quelques mois plus tard, leurs nouvelles recherches. Ils viennent alors de fabriquer les deux premiers radioéléments artificiels, le phosphore 30 et l'azote 13. Le 4 juillet 1934, Irène fait face à un nouveau deuil. Sa mère meurt d'une leucémie à 67 ans. Marie Curie se doutait depuis longtemps que la manipulation des produits radioactifs était dangereuse pour la santé. Mais elle avait préféré l'ignorer. L'année suivante, Irène et Frédéric sont invités à Stockholm pour recevoir ensemble le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la radioactivité artificielle. On les appelle désormais le couple Joliot-Curie, dans toute la communauté scientifique et les médias. Irène est désormais l'une des gloires de la France, elle marche dans les pas de sa mère. De retour en France, la lauréate du Nobel retrouve son laboratoire. Elle recrute alors un nouvel assistant, le jeune chercheur Pavel Savitch. Ensemble, ils travaillent sur le thorium et l'uranium. Irène veut comprendre ce qu'il se passe quand un atome se casse et si on peut maîtriser cet événement. La découverte de la fission nucléaire est toute proche. Irène échange régulièrement à ce sujet avec son homologue allemande Lise Meitner. Mais voilà, Lise est juive. Et nous sommes à la fin des années 30. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, un pogrom très violent est organisé par les nazis du Troisième Reich contre les juifs. C'est la nuit de cristal. Lise est forcée de quitter l'Allemagne pour se réfugier en Suède. En France, en réaction au mouvement d'extrême droite et de droite dure qui s'organise depuis quelques années, les partis de gauche forment une coalition pour les élections législatives du printemps 1936. C'est le Front populaire. Léon Blum, le président du Conseil, forme le premier gouvernement à dominante socialiste de la Troisième République. Il se montre très progressiste en confiant 3 sous-secrétariats d'État à des femmes alors qu'elles n'ont même pas le droit de vote. Irène Curie est en charge de la recherche scientifique. Le ministre de tutelle d'Irène, Jean Zay, est un radical socialiste. Eh bien, cet homme qui dort aujourd'hui au Panthéon a interdit aux femmes de prendre la parole dans l'hémicycle. Irène Curie décide alors de démissionner le 28 décembre 1936, quelques mois à peine après sa nomination, pour reprendre la route de son laboratoire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Irène est exfiltrée de Paris. Les autorités ont peur que ses recherches tombent entre de mauvaises mains, qui plus est si elles sont allemandes. De la fission nucléaire à la bombe atomique, il n'y a qu'un pas que d'autres chercheurs franchiront sans état d'âme. Le gouvernement décide d'envoyer Irène dans un sanatorium en Dordogne. Même si elle n'est pas malade, elle en profite pour faire une petite pause parce qu'elle souffre de tuberculose depuis plusieurs années. Elle rentre finalement à Paris, mais cette fois, c'est Frédéric qui organise son départ. Il la fait passer clandestinement en Suisse avec l'aide des réseaux de résistance dont il fait partie. Irène y passe une bonne partie de la guerre en sécurité. Après la guerre, Irène succède à sa mère à la direction du laboratoire Curie, mais un autre défi l'attend. En 1945, De Gaulle confie à Frédéric la création du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, un nouvel organe étatique d'administration et de recherche. Irène fait partie des commissaires. Elle participe au développement de la première pile atomique française nommée Zoé. Z pour zéro énergie, O pour oxyde d'uranium et E pour eau lourde. Zoé n'est pas une simple pile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais un réacteur nucléaire. Mais quelques années plus tard, en 1950, De Gaulle révoque Frédéric parce qu'il est membre du Parti communiste et le général redoute qu'il ne participe d'une manière ou d'une autre à l'espionnage russe. Le mandat d'Irène n'est pas renouvelé non plus. Le couple Joliot-Curie a bien une sensibilité de gauche, mais ils n'ont aucune acquaintance avec l'URSS. Ils ne feraient rien qui favoriserait une guerre. Irène est pacifiste et sait que la science peut être dévoyée par les politiques. Elle se déplace aux États-Unis pour militer contre l'usage de l'énergie atomique comme arme de guerre et elle signe l'appel de Stockholm. Cette pétition contre l'arme nucléaire a notamment été soutenue par Louis Aragon et Pablo Picasso. Après l'appel de Stockholm, Irène se consacre à l'enseignement et à la cause des femmes. Son dernier combat, le plus symbolique, être la première femme à entrer à l'Académie des sciences. Malgré son pédigré, elle est refusée à chaque tentative. Irène, comme sa mère, meurt d'une leucémie en 1956. L'atome s'est vengé pour avoir dévoilé ses mystères. La France lui offre des funérailles nationales à la suite desquelles elle est inhumée au cimetière de Sceaux où elle repose toujours. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Irène Joliot-Curie, l'étoile des atomes. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour découvrir des contenus inédits. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans Madame Figaro pour lire le portrait d'Irène Joliot-Curie que j'ai écrit. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Elise Bertil de la diffusion. À bientôt !